Aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui. Au sommaire ce soir, le procès en destitution du président américain Donald Trump s'ouvre aujourd'hui au Sénat. Nous reviendrons sur les raisons de ce procès historique et ses conséquences potentielles. Levée de l'immunité parlementaire de Guillaume Soro et des députés proches de lui arrêtés en Côte d'Ivoire. Au Tchad, la grogne des consommateurs et tenanciers des bars persiste suite à l'augmentation des prix des produits des brasseries. Nous reviendrons également sur le sommet Grande-Bretagne-Afrique où le Premier ministre Boris Johnson a promis une immigration plus juste. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Et d'abord, le journal. Ici, aux États-Unis, le procès historique de Donald Trump est entré ce mardi dans le vif du sujet au Sénat américain, où s'affrontent deux camps irréductibles, l'opposition démocrate qui réclame la destitution du président et la majorité républicaine déterminée à l'acquitter, si possible au pas de course. Les précisions de John Hinden.
4 mois après le début de l'affaire ukrainienne qui empoisonne la fin du premier mandat du milliardaire et à moins des 10 mois de l'élection présidentielle, au cours de laquelle il compte ébrayer un second mandat, les 100 sénateurs vont se retrouver au Capitole sous la présidence du chef de la Cour suprême, John Roberts. Les sénateurs qui ont prêté serment jeudi en tant que jurés lors de l'ouverture formelle du procès devront déterminer si le président est bien coupable d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès, comme le décrit l'acte d'accusation adopté en décembre par la Chambre des représentants. Au cœur du scandale, un coup de téléphone en juillet au cours duquel le président américain demandait à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky d'enquêter sur Joe Biden, son adversaire démocrate potentiel à la présidentielle de novembre. Le rendez-vous s'annonce d'autant plus grave et solennel qu'il s'agit seulement du 3e procès en destitution d'un président américain après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1999. Absent de Washington en raison de sa participation au Forum économique mondial de Davos, Donald Trump a une nouvelle fois qualifié son procès de farce et de chasse aux sorcières. Le président américain est représenté à ce procès par une équipe d'avocats.
Les démocrates qui ont accusé ce matin les sénateurs républicains de vouloir organiser un procès truqué, selon leurs termes, avec un calendrier imposé pour acquitter au plus vite le président des États-Unis. Adam Schiff, chargé de porter l'accusation, a affirmé, je le cite, qu'il comprime la durée du procès afin que les audiences durent tard dans la nuit quand les Américains ne regardent pas. Le président Donald Trump est donc accusé d'abus de pouvoir et d'entrave au travail du Congrès. Pour en parler, Abdourahman Dia, adjoint ici à Washington, Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique.
Le président du Sénat, c'est-à-dire de la majorité républicaine, le sénateur McConnell, il a ouvertement dit qu'il veut que président Trump soit acquitté, c'est-à-dire sans avoir écouté les arguments, McConnell a dit, pour moi, il est innocent. Donc, il a organisé les procédures pour aider à arriver à cette conclusion qu'il est innocent.
Le démocrate dénonce un peu la procédure qu'il veut mettre en place avec des débats qui vont se dérouler jusque tard dans la soirée. Les démocrates pensent que c'est pour éviter que le public ne regarde les débats et les arguments.
C'est vrai. Mais aussi, les démocrates croient qu'il faut avoir des témoins. Il y a certains témoins qui n'étaient pas présents pendant les discussions dans la Chambre. Mais maintenant, ils sont disponibles. Par exemple, M. John Bolton, l'ancien conseiller pour
la sécurité.
La sécurité il sera empêché de témoigner et il veut témoigner. Mais il y a un petit nombre de républicains qui risquent de voter avec les démocrates pour changer les procédures. Tout ce qu'il faut, c'est 4 républicains pour changer de place et voter avec les démocrates. Donc, c'est pas encore terminé, les procédures. Je crois qu'il y aura un grand débat là-dessus.
Également, les avocats du président demandent au Sénat de l'acquitter immédiatement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a pas de chance d'aboutir, cette requête, n'est-ce pas?
Non, pas du tout. Et ce sera une conclusion que le président est coupable.
Il y aura au moins le débat.
Il faut un débat pour arriver là. Si vous voulez l'acquitter, et quand même, il faut écouter le débat. S'il n'y a pas de débat, il est coupable.
Mais il sera certainement acquitté à la fin, de toute façon, n'est-ce pas?
Il sera acquitté, mais ce sera un problème pour lui dans la prochaine élection. Avec ça derrière lui, qu'il était inculpé, etc., ça va lui faire du tort pour la prochaine élection, à mon avis.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de la décision du président de recruter des avocats très connus à la télévision? C'est une bonne stratégie pour lui?
Oui, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça peut aider le Trump devant l'opinion publique. Donc, c'est une bonne idée pour lui, dans ses intérêts.
C'était Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Direction l'Iran à présent, où un député a proposé aujourd'hui une récompense de 3 millions de dollars à quiconque tuera Trump pour venger la mort du général Qassem Soleimani, tué début janvier à Bagdad sur ordre du président américain. En Syrie, au moins 15 civils, dont 10 enfants, ont été tués aujourd'hui dans des raids menés par la Russie dans le nord-ouest du pays, l'ultime bastion hostile à Damas, où les violences font craindre une aggravation de la crise humanitaire. Et puis en Asie, de nombreux pays sont en alerte maximale face au nouveau virus chinois. De Bangkok à Hong Kong, de Singapour à Sydney, les autorités ont renforcé aujourd'hui leur contrôle face à la propagation de ce nouveau virus semblable au SRAS, qui a déjà provoqué la mort de 6 personnes en Chine et fait craindre une crise sanitaire mondiale.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et puis dans l'actualité africaine ce soir, l'Assemblée nationale ivoirienne a annoncé avoir voté la levée de l'immunité parlementaire de Guillaume Soro, visé par un mandat d'arrêt, et de 5 députés qui avaient été arrêtés après le retour en avion le 23 décembre dernier. Nathalie Barge.
La levée de l'immunité de Loukimane Camara, Kando Soumaoro, Alain Lobognon, Mamadou Soro, Soumaïla Yao, ainsi que de Guillaume Soro, a été votée par l'Assemblée après une requête du groupe RHDP, coalition soutenant le président Alassane Ouattara. La justice ivoirienne accuse l'ex-président du Parlement d'avoir préparé une insurrection civile et militaire. Monsieur Soro avait appris le 23 décembre qu'un mandat d'arrêt avait été lancé à son encontre alors qu'il était dans un vol le ramenant au pays après 6 mois à l'étranger. Il avait alors fait demi-tour tandis que les forces de l'ordre avaient arrêté certains de ses proches, dont les 5 députés. Ancien allié d'Alassane Ouattara, qu'il a soutenu pendant la crise de 2010-2011, Guillaume Soro s'est ensuite brouillé avec lui jusqu'à la rupture l'an dernier. Monsieur Soro est considéré comme un challenger sérieux pour la présidentielle prévue le 31 octobre, 10 ans après les violences post-électorales qui avaient fait 3000 morts.
Au Mali, la justice se prononcera mardi prochain, le 28 janvier, sur l'éventuelle mise en liberté provisoire du général Amadou Sanogo, meneur d'un coup d'État en 2012. Le général Sanogo est détenu depuis 6 ans pour l'assassinat présumé de soldats contre-putschistes. L'un de ses avocats, Maître Cheikh Oumar Konaré, a affirmé que ni le parquet ni la partie civile ne sont opposés à cette liberté provisoire. En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a reçu cet après-midi en audience François Bozizé au siège de la présidence à Bangui. Une rencontre qui intervient plus d'un mois après le retour en catimini de l'ancien président au pays. De Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Le tête-à-tête entre les deux hommes a eu lieu aux environs de 14h30, heure de Bangui. Accompagné d'une forte délégation dont des représentants de l'Union africaine, François Bozizé, costume noir, chemise blanche et cravate rouge, petit sourire aux lèvres, serre la main de son ancien Premier ministre de 2008 à 2012, lui aujourd'hui chef d'État. Des séances de photos, la presse se retire et les échanges se déroulent à huis clos. Après presque une heure, le chef de protocole bouge, la porte s'ouvre et l'ancien président sort visiblement serein, accompagné du président Faustin Archange Touadéra. La presse tend son micro, mais François Bozizé préfère ne pas faire de déclaration. Pour l'instant, rien n'a encore filtré des points débattus lors de cette entrevue, mais une source proche de la présidence affirme que François Bozizé a remis un document écrit à Faustin Archange Touadéra. Peut-être des doléances, ironise la même source. Dans la capitale Bangui, cette rencontre est bien vue et apaise les esprits dominés par une crainte de tension politique avec le retour au pays en cachette de l'ancien président renversé en mars 2013 par la coalition rebelle Séléka. Entre le 10 et le 21 janvier 2020, Faustin Archange Touadéra a reçu trois anciens dirigeants centrafricains, notamment Michel Djotodia, Catherine Samba-Panza et ce mardi, François Bozizé. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
L'agence nigériane anticorruption a inculpé l'ancien ministre de la Justice, Mohamed Aduke, compromis dans un scandale portant sur plus d'1,3 milliard de dollars. Il est accusé de blanchiment d'argent et d'avoir touché un pot de vin de 800 000 dollars dans le cadre de la vente d'un bloc pétrolier à Shell et Eni. Les deux sociétés ont nié tout acte répréhensible dans cette affaire. Leur mise en cause a donné lieu à des inculpations en Italie et à une enquête aux Pays-Bas. La compagnie aérienne sud-africaine annonce avoir annulé 10 vols intérieurs et un vol international dans un souci d'économie. Les passagers des vols intérieurs annulés pourront voyager sur des vols de la compagnie sœur Mongo moins chers. South African Airways connaît depuis des années de sérieuses difficultés économiques avec une dette d'environ 570 millions d'euros. Elle survit sous perfusion financière d'argent public.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Coup double pour Natnael Tesfazion à la Tropicale Amissa Bongo.
Oui, l'Érythréen a remporté la deuxième étape de cette 15e édition. Couru entre Bitam et Oyem 110 km, il endosse du même coup le maillot jaune. Le champion d'Afrique Mekseb Dibessé semblait avoir pourtant pris le bon bout de cette course en lançant une échappée à 50 km de la ligne d'arrivée. Il s'est fait ensuite rattraper puis dépasser. La victoire s'est finalement jouée entre son compatriote Tesfazion et l'Algérien Youssef Righighi. Au classement général, Tesfazion ravit le maillot de leader à l'Italien Attilio Viviani, vainqueur hier. Il devance son compatriote Yemane et Righighi de 5 secondes. Demain, place à la troisième étape entre Mizik et Ndjolé, 180 km.
Karl Toko Ekambi, prêté à Lyon jusqu'en juin.
Oui, Karl Toko Ekambi a rejoint l'Olympique lyonnais sous la forme d'un prêt en provenance du club espagnol de Villarreal. Cette mutation temporaire d'un montant de 4 millions d'euros est assortie d'une option d'achat de 11,5 millions d'euros. Pourquoi le choix de Lyon ? Eh bien, l'international camerounais de 27 ans explique.
L'hésitation ne s'est pas faite parce que c'était Lyon. Je pense que ça ne se refuse pas. C'est vrai que la Liga est l'un des meilleurs championnats du monde. Mais j'ai joué au championnat de France, je suis né en France. Je ne peux pas dire que le championnat de France est décrié parce que j'y ai joué. C'est un championnat très compétitif. Et Lyon a toujours su faire le boulot et toujours su être dans les places qualificatives européennes. Donc c'est vraiment un plaisir de rejoindre ce club qui, pour moi, fait une bonne saison et qui est encore qualifié sur les quatre compétitions.
Karl Toko Ekambi, attaquant de Lyon. Toujours au titre des transferts, l'Algérien Nabil Bentaleb a signé à Newcastle en Premier League pour 6 mois sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Il arrive de Schalke 04 en Allemagne où il a été mis à l'écart pour des raisons disciplinaires. De son côté, l'international congolais Paul-José Mpoku a quitté le club belge du Standard de Liège pour s'engager avec Al Wahda aux Émirats Arabes Unis.
NBA, les Celtics humilient les Lakers dans le choc du MLK Day.
Le choc du MLK Day qui a opposé les deux franchises les plus titrées de l'histoire, 17 pour les Celtics et 16 pour les Lakers, a accouché d'une souris tant Boston était un cran au-dessus. Victoire des Boston Celtics sur les Los Angeles Lakers, 139-107. Malgré cette deuxième défaite en 3 rencontres, les Lakers demeurent leaders à l'ouest. Utah et Denver, vainqueurs d'Indiana, 118-88 et de Minnesota, 107-100. En profitent pour s'approcher des Clippers. De leur côté, les Bucks de Milwaukee ont enchaîné leur 7e succès consécutif contre Chicago, 111-98. Les Sixers de Philadelphie ont aussi remporté une 4e victoire d'affilée à Brooklyn, 117-111, toujours en l'absence du Camerounais Joel Embiid, blessé au doigt.
Merci Yakuba. Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que son pays mettrait les personnes avant les passeports, promettant un système d'immigration plus équitable. Il a dit à Londres, lors d'un sommet avec des dirigeants africains consacrés à l'investissement. La Grande-Bretagne veut conclure de nouveaux accords commerciaux avec des économies à croissance rapide en Afrique, après son départ de l'Union européenne le 31 janvier. Mais beaucoup de chefs d'État africains n'ont pas fait le déplacement. Un reportage à Londres de Henry Ridgewell avec le récit d'Abdourahmane Dia.
Le Premier ministre Boris Johnson a répété aux dirigeants africains son message désormais familier. La Grande-Bretagne s'ouvre au monde après le Brexit.
Plus de la moitié des économies qui progressent le plus au monde sont en Afrique.
La Grande-Bretagne doit combler son retard. Le commerce bilatéral annuel avec l'Afrique est d'environ 46 milliards de dollars, soit moins du quart de celui de la Chine, le plus grand partenaire commercial du continent. Le Premier ministre Johnson a promis aux citoyens africains un système de migration plus juste avec la fin de la libre circulation des citoyens de l'Union européenne.
En mettant les personnes avant les passeports, nous pourrons attirer les meilleurs talents où qu'ils se trouvent.
Il s'est également engagé à mettre fin aux investissements britanniques dans les mines de charbon et les centrales électriques au charbon à l'étranger. L'Afrique bénéficiera-t-elle donc du Brexit? Le secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Mukisha Kituyi, a déclaré à la VOA que cela prendrait du temps.
Pendant longtemps encore, l'Europe sera le partenaire commercial le plus important de la Grande-Bretagne. Progressivement, l'Afrique va être le 4e ou la 5e étape après des priorités plus urgentes. Ainsi, pour les Africains, le test de réussite sera de voir s'ils peuvent faire une meilleure offre d'accès au marché à la Grande-Bretagne. Une offre de renforcement de capacités, de facilitation des échanges supérieure à ce que l'Afrique soit dans le cadre de l'accord de partenariat économique avec Bruxelles.
Les dirigeants ont pris part à une réception au palais de Buckingham lundi soir, une manière pour la famille royale de se joindre à l'offensive de charme. Mais les nations africaines partagent-elles la même vision mondialiste que la Grande-Bretagne? 16 dirigeants africains ont assisté au sommet de Londres, beaucoup moins que les dizaines de dirigeants qui ont pris part à des événements récents similaires au Japon, en Russie et en Chine. Mais Mukisha Kituyi estime qu'il faut respecter le choix de la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne.
La Grande-Bretagne a été une voix de consensus. Elle a été la voix d'un engagement responsable. Cela a été retiré de la table et cela a appauvri Bruxelles. Deuxièmement, je pense que les charges de la transition vont coûter plus cher que les avantages du Brexit.
La Grande-Bretagne a clairement exprimé ses ambitions, se lancer à la conquête d'autres marchés après le Brexit. Mais selon les prévisions économiques, quitter le plus grand bloc de libre-échange au monde ralentira l'économie britannique pendant plusieurs années.
Au Tchad, persistance de la grogne des grossistes, tenanciers de bars et autres maquis, mais également des consommateurs qui protestent contre l'augmentation des produits des brasseries du Tchad. Trois semaines après le débrayage, aucune solution ne semble en vue. Notre correspondant à N'Djamena, André Komadjingar, fait le point.
Cette hausse des prix des bières et boissons non alcoolisées, objet de cette colère, est une conséquence du non-renouvellement de la convention d'établissement entre l'État tchadien et le BTT, Brasserie du Tchad. Cette situation qui crée de la mévente risque non seulement de mettre en chômage les employés de cette entreprise, mais aussi les main-d'œuvre à différents niveaux.
Plus de 400 employés directs de Brasserie du Tchad courent le risque d'un chômage technique et de compression si jamais le gouvernement ne réagit pas.
Loué Adoumgar Domti Blanchard, président de l'Union des jeunes nationalistes et une organisation de la société civile.
Cette situation a complètement paralysé le pays. Nos villes vivent un marasme économique et les ménages qui ne vivent que des retombées des brasseries du Tchad boivent du noir depuis quelques jours.
Face au mutisme des responsables des brasseries et du gouvernement tchadien qui refuse de dialoguer pour une sortie de crise, les tenanciers de bars et alimentation de Mundu, capitale économique du Tchad, décident de reconduire la grève. Bekoudjoum Goto Ivaris en est le responsable.
Jusqu'à présent, il y a rien entre les grossistes ni la brasserie. Donc nous avons prolongé encore notre grève. Cette fois-ci, nous demandons aux autorités d'interpeller les brasseries et les grossistes qu'on doit être ensemble pour discuter ce problème.
Pour l'universitaire Dr Sitak Yumbatina Beni, même s'il y a un seul jour de grève dans ce secteur, c'est beaucoup d'argent qui est perdu et cela joue négativement sur l'économie nationale.
Un pays comme le Tchad, on nous a déclaré il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, le premier pays consommateur de la bière. Ça veut dire que sur les 15 millions de Tchadiens, il y a quand même une bonne partie qui boivent de la bière. Donc ça veut dire que non seulement ça des répercussions négatives sur l'économie familiale, mais par ricochet sur l'économie nationale. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'économie bat de l'aile tchad.
Les grossistes affirment avoir versé en moyenne 2 milliards de francs CFA par mois à l'État tchadien pour les taxes sur la valeur ajoutée et impôts sur les revenus de la personne physique, sans compter les autres taxes et impôts additionnels. Ils menacent de mettre dans la rue des milliers de personnes recrutées comme main-d'œuvre si la situation ne change pas. Ndiaghi Denis est le président du syndicat des grossistes du Tchad.
En toute saison, nous grossistes employons environ 2000 personnes que nous allons devoir mettre en chômage avec tout ce que cela comporte comme conséquences éventuelles sur leurs familles. Le blocage actuel de la chaîne de distribution risque d'inspirer inévitablement la contrebande tentaculaire qui, une fois installée, sera difficile à déraciner.
Cette situation oblige certains consommateurs d'alcool à se rabattre sur les boissons traditionnelles. D'autres exposent leur vie en s'adonnant abusivement à la consommation de l'alcool frelaté. André Kodumadjingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Nigeria, les femmes continuent de mourir en donnant la vie et beaucoup d'enfants décèdent immédiatement après la naissance. Et ce, malgré les progrès de la médecine. La situation est pire dans certains camps de déplacés où les femmes n'ont pas accès aux soins médicaux durant la grossesse. Suivons ce reportage de notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba.
Devant quelques dizaines de femmes en grossesse, Ngassi Obimnebo discute des bonnes pratiques et leur donne des conseils élémentaires à suivre pendant la période prénatale. La jeune dame infirmière se considère tous les jours en mission de sauvetage. Ngassi Nebo et son équipe de 5 infirmières sont venus aujourd'hui dans le camp de déplacés de Kouchingoro à la périphérie d'Abuja, la capitale fédérale. Pour cette journée de consultation, l'infirmière et sa suite occupent un des conteneurs offerts par la fondation Nelson Mandela, déjà en état d'abandon.
Elles n'ont pas d'opportunité d'effectuer leur consultation prénatale. La période prénatale est l'un des moyens les plus importants de s'occuper de la femme et de son bébé qui doit naître. Donc, nous avions décidé d'offrir à ces communautés au moins 4 différents services de prise en charge pour ces femmes qui représentent la base établie par l'OMS.
Chassées de leur localité d'origine dans le nord-est, ces femmes dans ces camps de plus de 3000 personnes n'ont pas accès à un centre de santé ni à des soins réguliers. Rares sont les familles dans ce camp qui n'ont pas perdu une femme en couche ou un bébé pendant ou après l'accouchement. Il y a quelques mois, Queen Frade a perdu son bébé pendant l'accouchement.
Nous sommes allés à l'hôpital et le médecin a dit qu'il y avait un problème. Je ne peux pas accoucher jusqu'à ce qu'une césarienne soit effectuée parce que les jumeaux ont été mal positionnés et je pourrais mourir si je dois accoucher. J'ai accepté la césarienne et l'un des jumeaux est décédé pendant l'opération tandis que l'autre a survécu.
Les femmes en état de grossesse sont souvent obligées de parcourir des kilomètres à pied ou à moto pour se rendre dans une structure sanitaire de proximité. Miri Zakaria a aussi perdu son enfant dans ce camp dès après sa naissance.
Quand j'étais près d'accoucher, je suis allée à l'hôpital. J'ai passé toute la journée dans les douleurs. Je pensais que j'allais mourir. Juste avant 16 heures, j'ai accouché d'un petit garçon et il est mort instantanément.
Au Nigeria, plus de 100 femmes meurent chaque jour pendant l'accouchement selon l'UNICEF. Entre 86 et 90% des femmes, surtout dans les zones rurales, n'ont pas accès à un accouchement assisté à la maison. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, après l'étape de la composition des équipes et les prestations de serment, le procès en destitution du président Donald Trump entre cette semaine dans une étape historique, celle du lancement des débats au Sénat. Ce procès qui se tient à la Chambre du Parlement, dominée par les Républicains, est le troisième de ce genre dans l'histoire des États-Unis. Quelles sont les implications politiques de ce procès? Aura-t-il un impact sur les élections de novembre? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
C'est une histoire de cœur que VOA Afrique vous propose de découvrir à présent. Direction la France, où des familles choisissent d'héberger des jeunes migrants isolés. La plupart viennent d'Afrique. Après un passé difficile et douloureux, ils trouvent chez des associations et des familles un peu de chaleur et de stabilité pour quelques nuits ou plusieurs mois. Le reportage à Tours est signé Elham Le Cœur.
Bakary est arrivé en France en 2018, mais avant il a dû traverser le désert malien pour se rendre en Algérie puis en Libye.
Moi, j'ai pas un seul jour où j'ai eu bon souvenir en Libye, je peux dire ça. J'ai vu mes camarades se noyer dans l'eau, et puis moi-même, je peux dire que j'ai survécu beaucoup de choses là. Par exemple, un jour, on était dans les camps, il y a des militaires qui sont venus, ils ont tiré sur des gens, et il y en a qui ont disparu jusqu'à maintenant, on n'est pas vu. Est-ce qu'ils sont morts ou pas? On ne sait pas.
Après la Libye, le jeune de 16 ans a pris le bateau pour l'Italie, puis a posé ses valises dans l'ouest de la France, où il a appris à lire et à écrire, mais a surtout trouvé une famille de cœur.
C'est le fait de se dire qu'on fait grandir des jeunes dans les meilleures conditions pour qu'ils se construisent et qu'ils deviennent des adultes responsables, avec une ouverture d'esprit aussi. Mais c'est une ouverture pour eux, c'est une ouverture pour mes petits-enfants aussi. Ils réclament à les voir et ils sont heureux de se voir, quoi.
Aujourd'hui âgé de 18 ans, le lycéen se forme dans la restauration solidaire et souhaite retourner au Mali pour à son tour transmettre un savoir. D'autres migrants isolés n'ont pas encore eu cette chance d'être accueillis dans une famille, mais en attendant, ils peuvent compter sur les associations qui leur proposent un peu de chaleur et de la nourriture.
Donc là, actuellement, on a une quarantaine de jeunes qui vivent dans un squat. Donc c'est des conditions de vie qui sont pas du tout correctes, ni pour un adulte et encore moins pour un adolescent. Donc on est à la recherche de familles qui peuvent héberger ces jeunes le temps qu'ils soient vus par le juge des enfants, en fait, et qu'ils puissent avoir une nouvelle évaluation de leur minorité.
Et malgré une forte demande, les particuliers sont parfois hésitants et ont peur d'ouvrir leurs portes à ces mineurs. Mais une fois lancés dans l'accueil de migrants, les craintes disparaissent.
En fait, je pense qu'il y a toujours le côté au départ où on ne sait pas trop. Finalement, c'est nouveau aussi de s'engager dans cette démarche-là. Mais une fois que les hébergeurs sont partis, j'ai envie de dire, dans cette aventure de l'hébergement, ils n'ont plus envie de s'arrêter.
Chaque jour, des centaines de bénévoles viennent en aide à ces jeunes migrants de plus en plus nombreux. L'an dernier, près de 17 000 mineurs isolés ont été pris en charge par la France.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno. À la console, Dan Crafton. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier notre page Facebook, bien sûr. Restez avec nous tout de suite. Un nouveau bulletin d'informations présenté par Henri Francisque, suivi par À votre avis, votre émission interactive quotidienne avec Nathalie Barge aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
VOA Afrique.